Je regardais en fin de semaine, on a avancé l'heure. Puis selon un sondage léger, nous autres au Québec, c'est rien que des sondages légers. On en a pour tout et pour rien. Hein? Fait que selon un sondage léger, 67 % des gens sont affectés lorsqu'on avance l'heure. Puis ça dure quelques jours. Ça veut dire ce matin que 2 personnes sur 3 ici sont affectées. Ça fait que regardez votre voisin et dites-lui, le Seigneur va t'aider. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Je lisais un passage la semaine passée d'un Chronique, le chapitre 16. Puis, le Seigneur m'a mis comme une image à travers ça. Puis, c'est ce que je veux vous partager ce matin. Puis, je crois que c'est selon le cœur de Dieu aussi. Puis, on va prier le Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, que ta parole, Seigneur, elle nous fait du bien, Seigneur. Merci, Seigneur, qu'on puisse l'appliquer de plus en plus dans nos vies, Seigneur. Puis que tu puisses venir faire ta place dans notre cœur. Que tu puisses venir faire une place centrale dans notre vie, Seigneur. Pour ta gloire et pour ton honneur, Seigneur. Amen. Dans 1 Chronique, le chapitre 16, c'est lorsque David a centralisé l'adoration à Jérusalem. L'Arche de l'Alliance n'était pas à Jérusalem. L'Arche de l'Alliance a fait un long périple pour tranquillement se rendre à Jérusalem. Mais David, lui, avait à cœur de donner une structure bien organisée aux Lévites. Il avait à cœur de faire monter l'Arche de l'Alliance à Jérusalem, de réorganiser le service pour en faire plus un acte de célébration et d'adoration pour Dieu. Et lui, en plus, il avait à cœur de bâtir une maison pour le Seigneur. C'était tout un cœur. C'est pas pour rien qu'il disait, David, c'est un cœur pour Dieu. Hein? Mais le Seigneur lui a dit, ça sera pas toi qui vas bâtir ma maison, mais ça va être ton fils Salomon. Mais d'un autre côté, David, déjà, il avait à cœur de tout restructurer ça, d'amener l'Arche de l'Alliance dans la tente d'assignation, puis de tout restructurer le culte. Fait que c'est de ça qu'on va parler un petit peu dans 1 Chronique 16. Mais là, vu qu'il est juste 10h moins quart, puis on a jusqu'à 11h30, on va lire les 16 premiers chapitres au lieu du premier verset. Non, non. Dans 1 Chronique, le chapitre 16, on va lire quelques versets seulement. Après qu'on a eu amené l'Arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'Arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils avaient des instruments de musique, des luttes, des harpes, et Asaph faisait retentir les cymbales. Les sacrificateurs Benaja et Jazaïel sonnaient continuellement des trompettes devant l'Arche de l'Alliance de Dieu. Ce fut en ce jour que David chargea pour les premières fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Quel beau passage! Quel beau passage! David avait à cœur de ramener l'Arche à Jérusalem, le lieu que Dieu avait choisi pour résider, la place centrale du culte, et de restaurer le culte de Dieu, placer l'Arche au centre du peuple de Dieu, au centre de la tente et au centre du peuple de Dieu. L'arche avait fait un long périple. L'arche, si on regarde dans le livre des Juges, était partie de Silo. Après ça, pendant 7 ans, les Philistins ont enlevé l'arche. Après ça, les Philistins étaient tannés d'avoir l'arche parce que pendant qu'il y avait l'arche, Dieu les blessait et Dieu leur donnait des défaites. Ça fait qu'ils ont retourné l'arche à la maison de Oben. Comment il s'appelait, lui? Abimadad. Eh, mon Dieu! Ils ont retourné l'arche, puis pendant 20 ans, elle est restée là. Puis après ça, pendant 3 ans, ils l'ont transférée à la maison d'Obed-Edom. Puis c'est là que David l'a transporté jusqu'à Jérusalem et que là, elle pouvait avoir la place centrale au milieu du peuple, la place centrale. Puis l'arche, ça représentait la présence de Dieu. Et pour David, c'était de replacer la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est quelque chose, hein? La présence de Dieu au milieu de son peuple. Puis quand je regarde ça, quand je méditais là-dessus, puis quand je regardais ça, ça me faisait penser quand on arrive au Seigneur. Quand on arrive au Seigneur, on est sauvé, on est lavé, on est pardonné, on a Christ dans notre vie. Mais comment ça prend de temps avant que des fois, Christ ait la place centrale dans notre vie? Soit le centre de nos activités, soit au centre de notre cœur. Comment ça prend de temps? Est-ce que des fois ça prend comme 7 ans chez 7 ans de place, 20 ans, une autre place à cause des difficultés, des tribulations, un autre 2-3 ans, une autre place à cause de tout ce qui se passe avant que tranquillement on ramène Jésus à la place centrale où il devrait aller dans notre cœur? Amen. Quand je méditais là-dessus, c'est la première pensée qui me venait. Je me disais, comment ça prend de temps des fois quand on arrive au Seigneur avant que... Il y en a qui arrivent au Seigneur, puis tout de suite, ils sont capables de lui donner la première place. Il y en a qui sont capables. Il y en a qui arrivent au Seigneur, mais à cause des soucis de ce monde, à cause des fois des échecs, à cause des fois des difficultés, des fois, ça prend plus de temps avant de laisser la première place au Seigneur, avant qu'il puisse devenir, prendre la première place dans notre cœur. Parce qu'est-ce que Dieu veut, frères et sœurs? C'est qu'il veut prendre la place centrale dans notre cœur. C'est ça que Christ veut. Amen. C'est son désir le plus profond. Mais malgré que c'est son désir le plus profond, il nous laisse libres. Il nous laisse libres. Il faut que ça soit un désir de notre cœur à nous. Ici, dans cet épisode-là d'un Chronique 16, le désir de David, c'était d'amener l'Arche de l'Alliance, qui représentait la présence de Dieu, de l'amener à Jérusalem, le lieu où il devait résider, au milieu de son peuple. Amen. Et nous, Dieu veut résider dans notre cœur, au milieu de notre vie, et il veut prendre la place centrale. Il y en a certains que ça prend peu de temps, mais il y en a que ça prend des fois plus de temps aussi, à cause des difficultés, à cause des tribulations, à cause aussi de notre moi, qui des fois ne veut pas mourir. C'est une mort à nous-mêmes. Mais le Seigneur, il veut être le centre de notre vie. Puis quand je méditais aussi là-dessus, il va être le centre de notre vie et il veut qu'on soit au milieu de son peuple. Ça me parlait aussi, ça, ce mot-là, au milieu de son peuple. Parce que des fois, je vois des chrétiens qui disent, « Moi, je suis chrétien, mais je veux être tout seul dans mon coin. » Ici, David est intéressé à ramener l'arche au centre de Jérusalem, au milieu de son peuple. Le Seigneur, il veut être au centre de notre vie, mais il veut qu'on vive au milieu de son peuple. Amen. Au milieu de son peuple. Un chrétien qui est tout seul dans son coin, il va sécher tranquillement, puis il va s'éteindre. On a besoin de la présence de Dieu. puis on a besoin de la présence de nos frères et sœurs afin d'être encouragés, d'être édifiés, d'être relevés. Quand on en a besoin, on a besoin de nos frères et sœurs. Amen. On a besoin. Puis là, je pense, c'est à ça que je pensais lorsque je lisais 1 Chronique 16. Puis il y a une autre pensée qui venait aussi à propos de, justement, ce périple-là de l'Arche qui s'en allait jusqu'à Jérusalem. Si je continue ma pensée, de David aller jusqu'à Jésus, il y a environ 1000 ans. Hein? Il y a environ 1000 ans, puis pendant ce périple-là, qu'est-ce qui est arrivé au peuple d'Israël? Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ils ont eu le temple de Salomon. Après ça, ils ont eu le deuxième temple. Ils ont été emportés en déportation. Ils ont eu le deuxième temple. Après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont enfermés sous la loi. Ils ont mis des lois, puis des lois, puis des lois. Puis ils se sont enfermés dans la loi. Puis quand Jésus est arrivé, le peuple juif était tellement enfermé dans leur loi puis dans leur tradition qui n'ont pas reconnu Jésus. Quand Jésus est arrivé, là, écoutez bien ça, là, les autres, il y avait la Torah et le Talmud. La Torah, c'était les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, plus 613 commandements qu'ils devaient respecter. 613, c'était plus un 10, là. Hein? 613. Là-dedans, il y avait 248 commandements positifs, des choses qu'ils devaient faire. Ça correspondait à tous les organes du corps, plus les os. Puis, 365 choses qu'ils ne devaient pas faire négatives. Fait qu'il fallait qu'ils respectent toutes ces lois-là. Puis en plus, il y avait le Talmud. Le Talmud, ça, c'était tous les écrits des Juifs rabbiniques qui écrivaient leurs pensées, puis ils devaient tous respecter ça aussi. C'est pour ça qu'ils étaient tellement enfermés dans la loi qu'ils n'ont pas reconnu Jésus. Puis quand je pensais à ça, ça me faisait penser aussi. Juste, je ramenais ça à mon idée de tantôt, lorsque les gens arrivent au Seigneur. Il y en a qui, à la longue, ils vont mettre Jésus dans leur vie. Il y en a qui, ça va te prendre du temps de le mettre à leur place centrale. Mais il y en a qui arrivent au Seigneur, que Jésus fait un œuvre dans leur vie. Mais ils font comme le peuple d'Israël. Tranquillement, ils mettent des lois. Puis ils mettent des lois. Fais pas ci, fais pas ça. Fais pas ci, on consomme pas ça. On ne mange pas ci, on ne se tient pas avec un tel, on ne fait pas ça. Puis ils se mettent tellement de lois qu'ils arrivent à 50, 60 ans plus tard dans leur vie chrétienne, ils sont tellement entortillés avec des lois que je ne sais même plus s'ils reconnaissent encore le Seigneur. C'est triste. C'est triste. Mais le Seigneur m'a montré ça, puis c'est une réalité. C'est une réalité. Il faut faire une place centrale à Jésus dans notre vie. Mais il ne faut pas faire non plus comme le peuple d'Israël, de se laisser entortiller par des lois afin de devenir légaliste et de ne plus reconnaître vraiment là où on en est. L'Arche de l'Alliance était établie, l'Arche de l'Alliance, c'est le symbole de la présence de Dieu au milieu du peuple de Dieu. Mais ça préfigurait aussi le sacrifice de Jésus-Christ, qui est venu, lui, pour accomplir la nouvelle alliance. Hein? Ça préfigurait ça. Fait qu'on va lire quelques... Dans Hébreux, ça dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre où il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit, « Tu n'as voulu... » Ni tu n'as agréé, ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, et dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté, et l'abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Amen. C'est merveilleux. La présence de Jésus dans notre vie. Puis lorsque je regardais ça, là, je vous ai amené deux observations que le chapitre 1 Chronique 16, deux observations que le Seigneur m'a comme placé un peu dans mon cœur. Puis, je veux vous amener 5 points. 5 points puis tout en vous décrivant la reconnaissance de David envers Dieu, cinq points qui, selon lui, nous enseigne comment mettre Dieu à la première place. Amen. On a-tu besoin d'être enseigné pour savoir comment mettre Dieu à première place? Puis, dans ce chapitre-là, c'est ce qui me frappait un petit peu, ces cinq points-là. Le premier point, c'est ce que nous devons chercher. Ce que nous devons chercher. Dans Chronique, le chapitre 16, le verset 11, ça dit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. » Amen. Trois choses dans ce verset-là, qui est trois piliers que chacun de nous, on devrait posséder. Quand quelqu'un va vous dire « Ta vie chrétienne, c'est une béquille », tu diras « Non. » Un Chronique 16, il dit « C'est un appui. » C'est un appui. C'est pas une béquille. Un appui. Ayez recours. Puis quand il dit « Cherchez continuellement sa face », chercher sa face, dans l'Ancien Testament, ça veut dire « chercher sa présence ». Chercher sa présence. Quelqu'un a dit « Faut pas toujours chercher la main de Dieu, mais il faut souvent chercher sa face. » Amen. Parce que chercher sa main, c'est vouloir obtenir des choses, mais chercher sa face, c'est obtenir sa présence. C'est obtenir son appui. Chercher le Seigneur, ça devrait être notre priorité, enfant de Dieu. Ça devrait être notre premier « Ayez recours à l'Éternel ». Cherchez continuellement. 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 J'aimais le discours de Paul quand il a parlé aux Athéniens. J'aimais ça. Moi, je trouvais qu'il y avait le tour d'amener hein? Il dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. J'aimerais ça pouvoir parler aux inconvertis de même, moi, poétiquement de même. Hein? Étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. C'est bien amené, hein? Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur. Amen. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur. Le premier point de notre vie, c'est chercher le Seigneur. Chercher le Seigneur. Et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Hein? Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Quel beau passage de la parole de Dieu. Hein? Qu'ils cherchassent le Seigneur. Le chercher pour le salut, le chercher pour la vie éternelle, le chercher pour sa présence, le chercher pour nos besoins, le chercher pour le louer, le chercher pour l'adorer, le chercher pour le bénir. On en a des raisons. Amen? On en a des raisons. Il dit, on a besoin de son secours, on a besoin de son appui, on a besoin de connaître sa volonté. Mais il y a beaucoup de fois, on avance, mais on ne connaît pas la volonté de Dieu. Beaucoup de fois, moi je pense que plusieurs fois dans ma vie, je vous prêche, mais je me prêche aussi. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai certainement avancé sans vraiment connaître le plan de Dieu. Parce que je ne m'aurais pas enfargé plusieurs fois de même, malgré que souvent, Dieu est en contrôle de toutes choses. Et à travers tout ce qu'on fait, puis tout ce qu'on avance, si on a le désir de le servir, Dieu va nous former, il va nous enseigner, il va nous montrer la voie qu'on doit suivre. Des fois, on regarde vers notre passé pour prendre des décisions. Des fois, on demande à des amis. Des fois, on demande des conseils au pasteur. Mais ayons recours au Seigneur en premier. Il est notre appui. Cherchez continuellement sa face. Dans le psaume 105, verset 4, ça dit la même chose. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. La marche chrétienne, c'est apprendre à développer une vie consacrée à la recherche de sa présence et de la faveur de Dieu. Amen. C'est ça. C'est ça notre travail de croyant. Mais ce n'est pas un travail. Parce que c'est un honneur. C'est un honneur que Dieu nous fait de participer à sa vie, de participer à son œuvre. J'aime un passage, dans Ésaïe 58, ça dit, c'est le vrai jeûne devant Dieu. Le vrai jeûne devant Dieu, c'est pas de jeûner puis avoir une couverte sur la tête, comme il disait dans... Mais le vrai jeûne, c'est de délâcher délâcher la méchanceté, de renvoyer libre l'opprimé, puis etc., etc. Puis dans le fond, d'être un croyant pieux devant Dieu, de vouloir faire sa volonté. Puis Ésaïe 58, ça dit, « Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, « Me voici. » Amen. « Me voici. » « Me voici. » Comme pour dire, « Qu'as-tu à me demander, mon fils? » Je serai là. Le Seigneur est là pour nous consoler, pour nous aider, pour nous bénir, pour nous délivrer, pour nous fortifier. On a besoin de son appui. On a besoin de sa force pour servir. On a besoin de lui dans toutes nos activités. Amen. On a besoin de lui. Le premier point, c'est comment... que Dieu va être la place centrale dans notre vie, c'est premièrement en le cherchant de tout notre cœur. En le cherchant de tout notre cœur. Le psaume 46, ça dit, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Qui ne manque jamais, jamais, jamais. Le deuxième point, pour que le Seigneur puisse faire une place centrale dans notre vie, j'ai marqué ce que nous devons chanter. Mais c'est pas vraiment ça que je voulais marquer. Je voulais marquer ce que l'on voulait vraiment offrir comme hommage au Seigneur. Mais David, c'était le chant de l'Éternel. Hein? C'était le chant de l'Éternel, David. Ça fait que c'est pour ça que quand tu regardes les psaumes de David, souvent c'est écrit « chanter, louer, donnez-lui gloire ». C'était vraiment le chantre de l'Éternel. Dans 1 Chronique 16, ça dit « Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre ». Êtes-vous un habitant de la terre ce matin? Ça nous concerne. Annoncez le jour en jour son salut, racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples sa merveille, car l'Éternel est grand et très digne de louange, digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Toute la terre devrait chanter pour le Seigneur et exprimer sa reconnaissance. Si on veut que, si Dieu est au centre de notre vie, on va vouloir chanter. Il y a quelqu'un qui m'a demandé un matin, il dit, t'aimes-tu ça chanter? J'ai dit, je vais en parler tout à l'heure. Dans les chants, frères et sœurs, lorsqu'on arrive et on se réunit dans les chants, il y a des chants d'espoir, il y a des chants de joie, il y a des chants de foi, il y a des chants de pardon, il y a des chants de délivrance. Voici Dieu est ma délivrance, je ne craindrai rien. On chante tout ça, mais lorsqu'on les chante, ça vient nous chercher. Lorsqu'on les chante, on témoigne de notre foi devant Dieu. Amen. Lorsqu'on les chante, ça nous transforme. Ça dit dans Chronique 16:7, « Ce fut en ce jour que David... chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. » Amen. Est-ce qu'on aime célébrer les louanges de l'Éternel? Le chant, ça a toujours été le souffle de Dieu pour accompagner et propager un élan spirituel. Ça a toujours été ça. Amen. Ça veut dire que si on veut placer le Seigneur au centre de notre vie, ben apprenons à chanter. Chantons ces louanges. Soyons reconnaissants. Le chant, on ne fait pas juste chanter. On loue le Seigneur. En chantant, on prie le Seigneur. En chantant, on adore le Seigneur. En chantant, on est délivré de nos tentations. En chantant, Dieu fait une œuvre dans nos cœurs. Prenons juste comme exemple Paul et Silas. Ils chantaient les louanges du Seigneur et les chaînes ont tombé. Et les chaînes ont tombé. J'aime beaucoup Josaphat, quand Josaphat il dit, au moment où il commençait les louanges et l'adoration, l'ennemi a été tendu en embuscade. Au moment où il commençait. Fait que des fois, si ça, on vient à l'église, ça ne nous tente pas de chanter, ça ne nous tente pas de louer, mais disons-nous, c'est un des moyens de m'approcher de Dieu, de m'approcher de lui et de lui faire une place centrale dans mon cœur et dans ma vie. Amen. Le chant. Le chant. Colossiens 3,16, ça dit... Ah, je l'ai... Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Comment? Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Si quelqu'un t'appelle et dit « ça va mal dans ma vie », tu es au téléphone, tu dis « attends un peu, t'as peu. On va chanter de quoi ensemble? » Ben non, c'est ça, pas vrai. Mais ça nous encourage. Amen. Le chant, ça nous amène plus près de Dieu. Ça nous fait du bien. Le troisième point, c'est ce que nous devons donner. Ce que nous devrions donner. Qu'est-ce qu'on devrait donner au Seigneur? Qu'est-ce qu'on devrait lui donner? 1 Chronique 16, 28, ça dit, « Famille des peuples, rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel. » Il répète, hein, « gloire et honneur. » Donnons-lui la gloire et l'honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec de saints ornements. Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? Juste la gloire et l'honneur. Juste le témoignage de son nom. C'est ça qu'on peut donner au Seigneur. On ne peut pas lui donner rien. Dieu dit que toute chose est à lui. Mais par contre, on peut lui rendre honneur et gloire. Honneur et gloire. Hébreux 13, 15, ça dit, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Amen. C'est juste ça qu'on peut redonner au Seigneur. C'est le glorifier. C'est de lui rendre gloire, de témoigner son nom, de témoigner ce qu'il a fait dans notre vie, de reconnaître qu'il est le Seigneur des Seigneurs, qu'il est le Roi des Rois, qu'il règne sur nos cœurs et sur nos vies. Alléluia! Le quatrième point, ce que nous devrions nous souvenir. Ah, c'est ça que je l'ai oublié de vous le dire. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? On ne peut pas lui rendre tous ses bienfaits. Il faut seulement le glorifier. Ce que nous devrions nous souvenir. 1 Chronique 16, 12, 15, ça dit, « Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Rappelez-vous toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Ne pas oublier les merveilles de Dieu. Ne pas oublier sa fidélité qu'il a déployée envers nous. Quand il nous a sauvés, souvent on témoigne son nom, puis on dit, il m'a délivré de ça, il m'a délivré de ça, il m'a sauvé de ça, il m'a aidé dans telle situation. On témoigne son nom. Des fois, quand on parle avec d'autres chrétiens, puis là, ils nous parlent de différents problèmes, puis ils disent, ah, moi, telle affaire, puis tu sais, puis telle affaire, puis telle affaire. Puis des fois, dans ta tête, ça dit, oh, j'ai vécu ça, moi aussi, dans le passé. Puis là, tu peux arriver, puis tu peux lui dire, ouais, moi aussi, j'ai vécu ça. Puis vu que j'ai vécu ça, puis Dieu m'a aidé, ça pourrait t'aider aussi. Ça nous amène à témoigner de son nom. Ça nous amène à témoigner, se souvenir de ses merveilles, se souvenir de ce que Dieu a fait. Se souvenir, ça nous permet d'encourager, ça nous permet de témoigner. Ça dit aussi de se souvenir des jugements de sa bouche ici. Mais même se souvenir des jugements de sa bouche, ça veut dire se souvenir aussi des temps ou que des fois, on pense que Dieu nous a laissés là, puis que c'est son jugement sur notre vie, puis qu'on s'est des fois mis les pieds dans les plats. Mais ça nous apprend des choses dans notre propre vie. ça nous apprend des choses dans notre propre vie. Se souvenir de ça aussi. Moi, je me souviens de ce qu'on a vécu, puis que ça n'a vraiment pas été bien quand on a témoigné. Puis je m'en souviens pour ne pas les répéter. Pour que la prochaine fois, quand je vais être mal pris, que je puisse mettre mes yeux davantage sur le Seigneur. Que je puisse mettre mes yeux davantage sur le Seigneur. Davantage sur lui. Le psaume 137, hein? Sur les bords du fleuve de Babylone, les Juifs, il dit, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Il avait été emmené en déportation. Pourquoi? La raison principale, c'est parce qu'il adorait des idoles sur toutes les hautes collines. Quand le peuple, 70 ans plus tard, est revenu, puis ils ont bâti le deuxième temple, il n'y a plus jamais eu d'adoration sur les collines ailleurs. Il avait compris la leçon de Dieu. Puis des fois, on a besoin que Dieu fasse quelque chose dans notre vie pour nous rappeler, pour nous rappeler des choses. Mais Dieu est toujours là, est toujours présent. Hein? Dans Lamentations, ça dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Pour l'âme qui le cherche. Amen. Pour l'âme qui le cherche. Ce que nous devrions dire, le cinquième point, ce que nous devrions dire, 1 Chronique 16:9, ça dit, parlez de toutes ces merveilles. On aime ça parler, hein? Mais parlez de toutes ces merveilles. S'entretenir les uns les autres de toutes les merveilles de Dieu. Nos conversations. Est-ce que nos conversations reflètent l'Évangile? Quand je lisais ça, parler de toutes ces merveilles, savez-vous ce qui me venait dans mon cœur? Ce qui me venait dans mon cœur, c'est que quand on a accepté le Seigneur, on était à l'église chez Sam, puis on était pas mal toute la famille à Pauline, puis après l'église, on se réunissait chez M. Biram, des fois, ou chez Jerry. Puis là, après le repas, là, on parlait des fois jusqu'à 3 heures, jusqu'à 4 heures de la prédication, de toutes les affaires, puis on parlait de la parole de Dieu, puis de ce que ça nous avait fait. Puis des fois, je sortais de là, le cœur enflammé. Là. Hein? Mais c'est parce qu'on était comme les deux disciples d'Emmaüs, quand ça dit, notre cœur ne brûlait-il pas en dedans de nous lorsqu'il nous parlait? Hein? Mais c'est de même qu'on se sentait. On parlait de la prédication, pas du prédicateur. Hein? Parce que des fois, on peut dire, « Ah, il ne l'avait pas à matin, je sais, finalement. » La prédication! Je me souviens encore de ça aujourd'hui, ça fait quasiment 50 ans de ça. Puis des fois, aussi, quand on arrivait à l'église ici, c'est une autre affaire que j'ai aimée. Des fois, après l'assemblée, on va manger. Mais on y va tout le temps, finalement. Mais souvent, là, on se rencontre un petit groupe. Puis des fois, ça tombe sur des sujets, puis là, on parle du Seigneur. Puis là, des fois, ça dure un bout de temps. Puis là, ça dure une heure et demie, des fois. Puis on parle de ça, puis il me semble que ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Ça nous encourage. Ça nous relève, ça nous restaure, ça nous aide à replacer le Seigneur au centre de notre vie. Amen. Ça nous fait du bien. S'entretenir, moi, ce point-là, ce que nous devrions dire, c'est un point qui me touche particulièrement. Parce que c'est en écoutant souvent la parole d'un autre que tu peux te recentrer toi-même sur ce que Dieu veut, sur ce que Dieu veut faire. Puis là, tu t'encourages. Puis toi, des fois, tu dis des affaires qui vont encourager un autre aussi. Puis c'est comme ça qu'on s'encourage. C'est comme ça qu'on se relève. C'est comme ça que Dieu est béni. Puis c'est comme ça qu'on avance ensemble. Éphésiens 4, le verset 29, ça dit, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Amen. C'est merveilleux. C'est merveilleux. 1 Thessaloniciens 5:11, ça dit, « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. » vous le faites. Amen. S'édifier, c'est à travers nos conversations. C'est à travers nos temps même où on est au restaurant, puis qu'on pense qu'on n'édifie pas personne, mais des fois, on va dire quelque chose qui va faire du bien à quelqu'un, puis ça va l'aider dans sa vie. Puis il va sortir de là, puis il va s'en aller, puis il va dire, « Hey, un matin, je t'ai encouragé, puis je t'ai encouragé. » Amen. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Le verset 24 aussi dit, « Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. » On s'entretient les uns les autres, mais on doit aussi témoigner son nom. Témoigner son nom à l'extérieur. Témoigner son nom lorsque, à travers nos amis, à travers notre famille, à travers les gens qu'on côtoie. Il y en a d'autres qui sont plus missionnaires, comme on parlait de l'autre semaine, l'autre mercredi, tu sais, des gens qu'on, tu sais, qui s'en vont des missions, puis que, moi, oh, Seigneur, bénis-les, Seigneur, parce qu'ils ont du courage, puis ils ont du courage. Bénis-les, Seigneur, remplis-les de toi, Seigneur. Placer Dieu au centre de notre vie, j'ai beaucoup aimé ce chapitre d'1 Chronique 16, que David voulait placer l'arche de Dieu, qui représente la présence de Dieu, au centre du peuple de Dieu, au centre de son peuple, au centre de la tente d'assignation, au centre de Jérusalem. Puis ça représente pour nous la présence de Dieu lorsqu'on a accepté le Seigneur, c'est... Est-ce qu'on veut placer Jésus au centre de notre vie? Puis souvent, oui, ça prend... Des fois, il y en a qui sont capables de le faire immédiatement. Il y en a que ça prend plus de temps. Il y en a que c'est comme l'arche après un grand détour, parce qu'à cause des difficultés, à cause du monde, à cause de la chair, à cause de toutes ces choses, il y a un combat qui s'est fait. Mais le désir de Dieu, c'est qu'on ramène sa présence au centre de notre vie. Au centre de notre vie. Puis les 5 points que j'ai emmenés, le premier c'était « Ayons recours à sa présence. Cherchons sa présence. Cherchons son appui continuellement. » Le deuxième point, c'est « Célébrons le Seigneur. » Le célébrer par nos chants. Le célébrer par nos louanges. Le célébrer. Amen. Venez le célébrer. C'est ça qu'on devrait se dire le dimanche matin. Quand vous vous levez à la maison, tu dis, ce matin, allons le célébrer. Amen. Allons le célébrer. Le troisième point, ce que nous devrions donner, on ne peut pas y donner d'autre chose que la gloire et l'honneur. Et le mérite qui lui revient. Amen. Et l'adoration et la louange. On ne peut pas lui donner d'autre chose. Et c'est ça qu'on doit y donner. Quatrièmement, ce qu'on doit se souvenir, on doit se souvenir de ses merveilles. On doit se souvenir de nos temps morts aussi, ou même si ça a été plus difficile, Dieu était là. Dieu était là. Dieu était là. Mais on doit se souvenir de sa fidélité. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ils se renouvellent chaque matin dans notre vie. Et ce que nous devrions parler, ce que nous devrions parler entre nous, frères et sœurs, que nous devrions nous parler, c'est de les merveilles de Dieu. De sa bonté, on devrait s'encourager, on devrait s'édifier. Et ce qu'on devrait parler à l'extérieur aussi, c'est que notre vie devrait témoigner. Témoigner de ce que Dieu est à la place centrale dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Alléluia. Pendant que les musiciens vont s'avancer, on va terminer avec un chant. On va juste prier le Seigneur. Puis s'il y en a qui ont besoin de prière ce matin pour n'importe quelle chose, vous pouvez venir en avant, puis le Seigneur est toujours là au milieu de nous. Toujours là. Puis on peut s'encourager à aller devant Dieu, et Dieu peut faire une œuvre merveilleuse dans chacune de nos vies. Amen. Alléluia. Seigneur, tu es grand, Seigneur. Seigneur, lorsque je préparais ce message, Seigneur, le Seigneur, il semblait me montrer que Il veut la première place dans nos vies. Il veut la première place dans nos vies. Il veut être à la place centrale dans nos cœurs et dans nos vies, à la place centrale dans nos décisions, à la place centrale de nos actions. Je te prie ce matin, Seigneur, que cette parole puisse nous faire du bien, Seigneur, qu'on puisse la saisir, Seigneur, et qu'on puisse la placer devant toi, et que ça puisse travailler dans nos cœurs, afin qu'on puisse améliorer des choses à améliorer, afin que tu deviennes de plus en plus le centre de nos vies, Seigneur. Pour ta gloire, amen.